La radio panafricaine. Radio Ila, la radio panafricaine. Radio Ila, la radio panafricaine.
Auditeurs de la radio Yila, bonjour et bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous écoutiez ou que vous regardiez cette émission sur les réseaux sociaux que nous faisons en simultané sur la plateforme de la radio Yila, la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg. La semaine dernière, on a commencé notre activité avec une émission qui a commencé le 1er octobre dans notre programme de sensibilisation sur le cancer du sein, avec le projet Ila Rose qui réunit un consortium d'associations qui se sont donné comme objectif de sensibiliser et de lutter contre le cancer du sein. Le 1er octobre, on a fait la première émission avec le Centre régional de dépistage contre le cancer du sein du Grand Aix pour vous parler comment améliorer le dépistage. On a vu les différentes forme de dépistage, à quel moment il faut faire le dépistage. Il y a même un quiz qu'on est en train de mettre en place qui sera publié sur les réseaux sociaux, mais je vous rappelle tout simplement l'essentiel de ce que nous avons vu ce jour-là, c'est que à partir de 50 ans, il faut faire le dépistage tous les deux ans. Et une femme sur 8 est exposée, selon les statistiques, au cancer du sein. Et le cancer du sein est la forme de cancer la plus meurtrière chez les femmes. Autre chose, c'est qu'une fois qu'on a 25 ans, il faut faire une fois un examen gynécologique pour pouvoir, avec un professionnel, pour pouvoir donner votre statut, savoir comment est-ce que vous vous portez sur le plan sanitaire. Voici des éléments qu'il faut retenir par rapport au dépistage. Aujourd'hui, nous avons deux éminents intervenants. L'un qui nous vient de la Guinée, qui n'est autre que le professeur Bangali Traoré, que je vous demande d'accueillir sur ce petit écran que vous voyez là. Professeur Bangali Traoré, comment vous allez?
Je vais très bien, merci. Merci pour l'invitation.
Le plaisir est pour nous de vous recevoir cet après-midi sur les ondes de la radio Ila, la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg. C'est aussi l'occasion pour nous de vous dire merci pour cet engagement que vous avez par rapport à cette problématique dans un pays où les infrastructures ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. Merci pour votre présence cet après-midi sur ce petit écran.
Le plaisir.
Le deuxième invité, c'est un docteur, une personne engagée. Durant ses études, quand je préparais cette émission, il a eu à me faire une confidence. Pendant qu'il faisait ses études de médecine, il a beaucoup voyagé en Afrique. Il a fait le Cameroun, il a fait le Sénégal, il a fait beaucoup de pays en Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il travaille avec un médecin, son homologue, qui est d'origine guinéenne, et il passe son temps à lui dire qu'il est plus africain que celui-ci. Parce qu'il a beaucoup voyagé en Afrique par rapport à son collègue. Et cet invité aujourd'hui n'est autre que Dr Stéphane Lantom. Dr Stéphane Lantom, comment vous allez?
Bonjour, je vais très bien, merci pour cette introduction. Et c'est un grand plaisir, merci beaucoup de votre invitation.
Écoutez, docteur, le plaisir est pour nous, vu votre engagement pour déjà la cause qui est le cancer du sein, parce que vous vous êtes spécialisé là-dessus, et votre engagement aussi pour sensibiliser et apporter votre contribution dans le bien-être des communautés africaines. On ne peut qu'être heureux de vous avoir parmi nous. Comme je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes sur la plateforme de la radio Ila, la radio panafricaine qui émet à partir de Strasbourg. Nous sommes là pour parler du cancer du sein à l'occasion du mois d'octobre qui est consacrée depuis 27 ans par la France sur la sensibilisation autour du cancer du sein. Aujourd'hui, avec ces deux éminents invités, nous allons parler de comment limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie avec le cancer du sein. Je commence par cette question qui est comment faire le diagnostic. Je me tourne vers le docteur Stéphane Lartonne. Aujourd'hui, quand on fait le diagnostic, comment on le fait?
Je ne vous entends pas très très bien.
Là, vous m'entendez?
Ah, très bien. Mieux.
La première question que je vous pose, c'est de savoir comment fait-on le diagnostic du cancer du sein.
Alors, on commence par le professeur?
Oui, par vous-même, par vous, docteur. On commence par vous.
Alors, il y a plusieurs modes de découverte. Le premier, c'est l'autopalpation. Les femmes se sentent une boule, donc c'est un premier mode de découverte, et puis de là découlent les examens, une mammographie et éventuellement une échographie et une biopsie. Voilà comment on arrive à un diagnostic. Ensuite, il y a aussi le dépistage, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est soit organisé sur des tranches d'âge de 50 à 75 ans, soit de manière individuelle. Il y a des femmes à 45 ans qui se font faire une mammographie pour faire un check sur leur santé. Et c'est à cette occasion qu'on voit une petite lésion, souvent donc infraclinique, souvent de petite taille, qui débouche après, ensuite, par une échographie de deuxième intention et une microbiopsie, et le diagnostic se fait comme ça. Voilà les deux modes de comment on découvre un cancer du sein.
Voilà les deux modes de comment on découvre le cancer du sein. Alors, je voudrais me tourner vers le professeur Bangali Traoré. En Guinée, comment ça se passe, ce dépistage?
Alors, l'idéal, ce sont les deux modes que le docteur Stéphane a expliqué. Le dépistage par la mammographie et la découverte du cancer du sein à l'occasion d'une palpation, autopalpation d'un nodule ou d'une anomalie, constatation d'une anomalie du sein par la femme. Nous sommes confrontés, nous, à d'autres réalités. Tout ça... Donc, l'autopalpation ou la mammographie de façon systématique ne se fait pas de façon organisée chez nous. Donc, ce sont des mammographies à la demande. Le mode de découverte le plus fréquent chez nous, c'est quand la femme voit son sein déformé, donc avec une symptomatologie avancée, que les femmes viennent chez nous. Donc, nous, on les voit plutôt à des stades localement avancés et métastatiques. Et notre objectif, à l'occasion justement de mois d'octobre, c'est d'arriver à inverser ces tendances pour voir les femmes un peu plus tôt.
Inverser les tendances pour voir les femmes un peu plus tôt. Docteur, professeur Bangali, j'aimerais bien revenir sur... ce mode de diagnostic dont vous avez parlé, parce que aujourd'hui, est-ce que nous avons des infrastructures qui sont spécialisées dans nos différents pays, surtout dans le pays que vous connaissez qui est la Guinée, pour pouvoir faire ce diagnostic? Est-ce que nous avons des services dans les hôpitaux qui sont spécialisés dans ce sens?
Alors, avant de parler d'infrastructures, parce que c'est une politique de santé qui amène à mettre en place les infrastructures et à former des ressources humaines pour faire face à ce fléau qu'est le cancer du sein. Alors, à l'heure actuelle, dans notre pays, il n'y a pas de stratégie nationale de détection ou de prise en charge des cancers du sein. encore moins d'autres types de cancers. Je vous informe que le programme national de lutte contre le cancer vient d'être créé, un programme à part entière au mois d'avril, et c'est il y a de cela seulement 2 ou 3 semaines que le comité de coordination a été nommé. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour justement développer dans un premier temps la stratégie nationale de lutte contre les cancers féminins, notamment le cancer du sein et du col de l'utérus. Alors, pour revenir à votre question, les infrastructures, nous en manquons beaucoup. Alors, si vous prenez la mammographie, qui est la plaque tournante du diagnostic des cancers du sein, alors, dans mon pays, actuellement, il n'y a que 2 ou 3 mammographes qui fonctionnent pour un pays avec près de 6 millions de femmes. Donc, et concernant les services de cancérologie ou les services de diagnostic et de prise en charge des cancers du sein, il y a donc mon service que je dirige, mais aussi nous avons un centre régional francophone de formation au dépistage des cancers. Mais c'est un centre qui a besoin de soutien, d'accompagnement. C'est tout ça que le programme national de lutte contre le cancer va essayer de redynamiser, d'accompagner et pour permettre à ce centre d'assurer, d'occuper la place qui lui convient.
Alors, docteur, professeur Bengali, c'est une satisfaction personnellement morale quand je vous entends que vous avez mis en place cette commission nationale qui va se pencher à la mise en place de ce programme national de lutte contre le cancer du sein. Parce que, laissez-moi vous dire que nous avons des témoignages de personnes qui nous font comprendre que il y a des pertes de vie humaine mais énormes par rapport à un diagnostic fait en retard. Mais on va en revenir et je vais juste me tourner vers docteur Lantome. Docteur Lantome, aujourd'hui, quand vous entendez ce témoignage ou bien cette prise de parole du professeur Traoré, quel sentiment vous anime au 21e Alors, siècle aujourd'hui? Oui, allez-y.
On est touché. On vous souhaite et on a envie, bien sûr, que les choses se développent, que les centres se développent, que la population se mobilise et que les femmes puissent ouvrir la porte de ces centres et se faire dépister. Je voudrais faire une petite parabole sur et réagir sur ce qui se passe en pratique en France. Le taux de dépistage en France, malheureusement, on s'attendrait à ce qu'il y ait 90% de femmes qui poussent la porte de ces centres, puisque ces centres, il y en a, à la différence de la Guinée où il n'y en a pas beaucoup. Donc, ces centres, chez nous, il y en a, mais avec un taux de fréquentation, malheureusement, qui oscille entre 50 et 55%. Ce qui veut dire qu'il y a presque la moitié des femmes qui ne poussent pas la porte de ces centres alors que ces centres sont à leur disposition. On est dans un autre paradoxe. Alors, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet, parce que cette politique sanitaire, et le professeur Taoré doit connaître certainement les chiffres de ces politiques de santé, c'est très important. Il faut que ça serve à quelque chose, et je m'adresse à la population française aussi pour leur dire de pousser les murs, pousser les portes, pardon, de ces centres de dépistage, parce que le taux de dépistage en France est relativement, enfin, il est stagnant, mais je pense qu'on pourrait largement faire mieux.
Alors, docteur Stéphane Lantome, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que l'appel, le cri de cœur que vous venez de faire, c'est l'objectif de ce consortium des associations que nous avons mis en place aujourd'hui, parce que effectivement, dans nos communautés de la diaspora africaine ou les afro-descendants, et l'ensemble de ces des personnes que nous rencontrons dans des quartiers qu'on dit des quartiers prioritaires ne font pas cet effort d'aller vers ce centre de dépistage, mais rares en parlent. Et puis le fait même que le corps soit un tabou, on n'en parle pas beaucoup. On a eu l'occasion d'en parler avec notre invitée de la semaine dernière, et qui est la coordinatrice du centre régional de dépistage en Alsace. C'est pour cela que nous avons mis en place ce consortium et nous espérons apporter notre contribution et pousser ces femmes à venir, à pousser les portes de dépistage. C'est pour cela qu'il y a une série d'actions. Après ces émissions radio, nous allons faire une marche le 29 dans ces quartiers dits prioritaires, et nous organisons aussi une journée de sensibilisation le 22 octobre autour de la prise en charge avec les traitements qui vont après la chimio, avec la perte de cheveux et l'assèchement de la peau, la chirurgie esthétique et tout ça. Donc, je vais rebondir sur cette question, et je pense qu'aujourd'hui, professeur Bangali et le docteur Stéphane Lantom, vous êtes dans une synergie de sensibilisation, de prise en charge, et je pense que à l'issue de cette émission, on aura une synergie qui va se créer entre la Guinée, la France, la Guinée, le Cameroun et tous les pays qui sont concernés par cette problématique. On va être vraiment très heureux de créer un réseau. Mais je vais vous poser la question de savoir quels sont les différents traitements qu'on peut administrer à une personne qui a le cancer du sein. Et là, je commence par le professeur Bangali.
Ça, c'est une très belle question. En fait, le cancer du sein, c'est un modèle de développement du traitement du cancer de façon globale. C'est le seul cancer où on peut appliquer plus de 4 à 5, voire 6 modalités thérapeutiques. Globalement, il faut faire la part entre les traitements qui visent à contrôler la maladie au niveau du sein et au niveau des ganglions axillaires, ainsi de suite. Ça, c'est la radiothérapie et la chirurgie, le traitement chirurgical. Alors, si vous prenez le traitement chirurgical, il y a le traitement qui vise à enlever la maladie tout en conservant la glande mammaire. Ça, c'est le traitement conservateur qui est fait ou qui est proposé chez les femmes qu'on voit à des stades très précoces et à des stades localisés. Donc ça, c'est l'avantage du dépistage et du diagnostic précoce. Mais à côté aussi, il y a le traitement radical qui consiste à enlever la totalité du sein. Et cette chirurgie a beaucoup évolué parce que le traitement conservateur qui peut laisser des séquelles, des déformations du sein opéré ou de créer une asymétrie par rapport au sein qui n'a pas été opéré. Donc, ça permet de faire de la plastie. Donc, on fait un jumelage de l'esthétique à la chirurgie carcinologique pour créer ce qu'on appelle la chirurgie oncoplastique. Donc, ça permet de reconstruire ou de donner une forme acceptable du sein après l'intervention chirurgicale. Pour les malades qu'on opère, qu'on enlève, chez lesquels on enlève le sein, il est donné la possibilité aussi de reconstruire le sein. Donc, c'est de la reconstruction. Ça permet de redonner l'image corporelle du sein. Alors, pour ce qui se passe chez nous, c'est que nous ne sommes pas souvent dans une proportion de 30% dans cette dynamique de chirurgie carcinologique ou de chirurgie qui permet d'obtenir, d'offrir la guérison. On est plutôt dans une tendance vis-à-vis d'un cancer qui est évolué, qui pour les femmes chez lesquelles on ne peut pas faire de traitement, de thérapie systémique, on fait plutôt de la chirurgie palliative. Donc, c'est de la mastectomie palliative. Et la tendance, comme je vous ai dit, c'est vraiment d'être loin de ça, avoir d'autres figures de cancer pour vraiment s'inscrire dans l'amélioration de la qualité du traitement des cancers. Alors, il y a les traitements systémiques, donc qui visent à contrôler la maladie de façon générale, parce que c'est une maladie qui se dissémine très rapidement aussi. C'est de la chimiothérapie, c'est de l'hormonothérapie. Donc, pour des malades qui ont des cancers qui se nourrissent des hormones, il y a aussi de la thérapie ciblée. Donc, c'est pour vraiment viser des cellules qui expriment un certain nombre de gènes et qui aujourd'hui, ces traitements ont beaucoup révolutionné la prise en charge de ces malades. Il y a la radiothérapie également, donc qui vise à optimiser le contrôle du traitement chirurgical.
D'accord. Merci beaucoup, professeur Bangali Traoré. Alors, docteur Stéphane Lantôme, vous, à la différence des cas dont nous a parlé le professeur Traoré, comment ça se passe au niveau de la France?
Alors, c'est peut-être la petite différence, c'est qu'effectivement, peut-être les patients nous viennent avec des tumeurs peut-être plus petites, globalement, avec une atteinte le peut-être un peu moins avancée que lorsque le professeur Traoré reçoit les patients. Alors du coup, ça change un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à être un peu plus conservateur. En France, le taux de traitement conservateur se situe entre 60 et 65%, ce qui veut dire qu'il y a presque 30 à 40% encore de mastectomie. Oui. Donc la mastectomie fait quand même partie de l'arsenal thérapeutique chirurgical. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement bête. Alors, autrement, je n'ai pas de grand-chose à rajouter sur l'exposé de mon confrère. Le cancer du sein, c'est comme un tabouret avec plusieurs pieds.
Juste pour nos auditeurs qui ne sont pas dans le domaine qui ne sont pas professionnels dans le domaine de la santé, quand vous parlez de mastectomie, ça veut dire quoi exactement?
C'est l'ablation du sein.
D'accord. Voilà.
C'est l'ablation du sein. Voilà. Pardon. C'est l'ablation du sein. Alors, je vous parlais de l'image du tabouret avec un certain nombre de pieds qui rend le tabouret stable. Et un des pieds, c'est un des piliers en fait. C'est chaque pied correspond à la prise en charge possible du cancer du sein. Donc le premier pied, c'est la chirurgie. Mon collègue l'a bien expliqué. Donc, soit la chirurgie se fait de manière conservatrice, on enlève la zone, on enlève la boule avec une marge de sécurité qui est extrêmement importante. L'image, c'est d'enlever la jante et le pneu qui va avec. Le pneu, c'est la marge de sécurité. Dès qu'on a cette marge de sécurité, on peut passer au traitement d'après. D'accord. Et donc, il y a le traitement conservateur, la tumorectomie, il y a aussi l'ablation du sein, la mastectomie, et puis il y a des choses entre les deux, c'est l'oncoplastie, c'est-à-dire des techniques de chirurgie esthétique qui sont adaptées au cancer. Donc, depuis une quinzaine d'années, ça a été quand même une petite révolution, puisque ça permet un petit peu d'éviter des mastectomies ou d'éviter des séquelles esthétiques. Ça permet d'opérer des tumeurs un peu plus grandes tout en étant conservateur.
Voilà. D'accord.
Donc, par exemple, quand les seins tombent un petit peu avec l'âge, eh ben, ça permet d'utiliser des techniques pour les rehausser comme si c'était de l'esthétique, sauf qu'on enlève le cancer en même temps. Voilà. C'est un petit peu ça. Et puis, il y a aussi dans la chirurgie, il y a aussi les reconstructions immédiates qui peuvent se faire soit avec des prothèses, soit avec des tissus du corps pour remplir ce volume. Voilà. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la radiothérapie pour le contrôle local, pour éviter qu'il y ait à nouveau de la maladie qui revienne. Mmh. Donc, le troisième pilier, c'est la chimiothérapie. Et le quatrième, c'est l'hormonothérapie, un médicament qui se donne tous les jours pendant en général 5 ans et qui permet, entre autres, d'éviter la récidive, notamment du sein contralatéral. Je précise pour nos auditeurs qu'on n'est pas obligé d'avoir les 4 piliers pour être pris en charge. On peut en avoir un seul, c'est-à-dire que la chirurgie peut être suffisante. Mmh. On peut en avoir 2, c'est-à-dire qu'on fait chirurgie, radiothérapie, mmh. et c'est plus exceptionnel. Mais par exemple, pour les cancers qui restent à l'intérieur des canaux, la chirurgie, radiothérapie est suffisante.
D'accord.
Et puis après, on peut rajouter la chimiothérapie en fonction des critères qu'on peut avoir de mauvais pronostics, etc. Et puis, lorsque les cancers sont hormonosensibles, sont nourris par les hormones, il y a ce médicament qui est conseillé à prendre pendant 5 ans.
D'accord. Alors, docteur, vu que vous parlez de la chimiothérapie, radiothérapie, l'hormonothérapie, mais aujourd'hui, ce qui est connu du public, c'est la chimiothérapie et la radiothérapie. Les autres formes de prise en charge, nous qui sommes des profanes, ne sommes pas des spécialistes dans le domaine médical, on ne connaît pas exactement ces autres formes de prise en charge. Mais par contre, ce que je voulais vous poser comme question, parce que les auditeurs ou moi-même des fois, j'ai tendance à confondre la radiothérapie et la chimiothérapie. Quelle différence faites-vous pour que nos auditeurs comprennent la différence entre la radiothérapie et la chimiothérapie. Docteur Latom.
Alors, la chimiothérapie, c'est un traitement systémique. C'est-à-dire c'est une perfusion avec un médicament de chimiothérapie qui est cytotoxique, qui va détruire les cellules tumorales en priorité. Et c'est un médicament intraveineux qui se met dans un petit boîtier qu'on appelle une chambre implantable. Je fais le geste en même temps, parce qu'en général, la chambre implantable, elle se positionne à peu près sous la clavicule. Et donc, c'est un petit boîtier qui peut être piqué à l'infini par l'infirmière du service de chimiothérapie. Et donc, il y a une poche qui se branche à une potence et le médicament se délivre. En général sur plusieurs heures. Voilà. Donc ça, c'est la chimiothérapie. La radiothérapie, ce sont un rayonnement qui est délivré sur une zone du corps, donc qui est balisée, qui fait X centimètres par X centimètres, qui est en général la forme du sein, à peu près, donc ça fait un grand carré. Et il y a un certain nombre de rayons qui sont distribués en une séance. La totalité de la radiothérapie, en général, c'est autour de 50 grays, c'est une unité de mesure. Donc, on ne peut pas le délivrer en une seule fois. Ça se fait en une vingtaine, trentaine de séances. D'accord. Donc, la patiente revient tous les jours pour une dose de 2 grays. Donc, c'est comme une radio du poumon, si vous voulez. La patiente est allongée et il y a une cible qui est faite au niveau du sein et autour. Et ça, c'est pour éviter les récidives locales. Donc, pour faire simple, la radiothérapie et la chirurgie,
Allô, docteur? Auditeur de la radio ILA, je pense qu'on est en train de perdre Dr. Lantom. Il y a un petit souci de réseau qui est en train de se poser de son côté. Mais je vais me tourner plutôt maintenant vers…
Là, ah
oui. Oui, je vous entends là, je vous entends. Allez-y.
C'est Pardon, je peux reprendre ou comme vous voulez.
Allez-y, allez-y, vous pouvez reprendre rapidement.
Oui, la radiothérapie, comme la chirurgie, c'est vraiment pour optimiser le contrôle local, pour éviter que la tumeur, elle revienne. La chimiothérapie, c'est pour éviter les récidives à court, à moyen et à long terme. Donc, c'est un peu l'assurance, si vous voulez.
D'accord.
Elle est délivrée, l'indication de la chimiothérapie est délivrée en fonction de la chirurgie.
D'accord. Elle est dérivée en fonction de la chirurgie. Merci beaucoup pour cette précision, docteur Stéphane Lantôme. Je vais me tourner vers professeur Bangali pour savoir aujourd'hui, est-ce que vous faites la chimiothérapie en Guinée ou la radiothérapie?
Oui, bien sûr que nous faisons de la chimiothérapie dans notre pays. Vous savez, on n'a pas les mêmes réalités en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructures. Nous, notre premier problème, c'est donc il y a ces infrastructures, il y a l'accès au traitement, mais aussi il y a les ressources humaines. Alors, en matière de ressources humaines, moi, je suis chirurgien de formation en cancérologie chirurgicale. Je dirige un service de chirurgie oncologique, maintenant qui est dédié service de cancérologie. J'ai eu à envoyer en formation des spécialistes en oncologie médicale, parce que ce sont eux qui doivent faire normalement la chimiothérapie. Le traitement qui assure le traitement médical du cancer. Et malheureusement, il y a toujours une fuite de cerveau. C'est-à-dire que vous envoyez des gens en formation et qui soit restent en France ou dans d'autres pays. Alors, mon oncologue médical que j'ai formé, et je suis désolé de vous apprendre, il est en France. Il est toujours en France. Et donc, voilà. Et nous faisons de la chimiothérapie. Et les difficultés, c'est qu'à l'heure actuelle, l'État, la pharmacie centrale ou le ministère de la Santé n'a pas encore jusque-là mis à disposition dans les officines hospitalières des médicaments anti-cancer. D'accord. Qui sont très chers. Donc, les malades s'approvisionnent à partir des pharmacies privées et avec un coût qui est très élevé. Donc, ce qui fait qu'on a, à cause du coût élevé, parce que les malades arrivent à des stades avancés, localement avancés et métastatiques, ça représente 95% de nos patients. Les stades localement avancés, c'est environ 60-70%. Donc, qui suppose, avant d'être opéré par la chirurgie, faire un traitement néo-adjuvant. Donc, faire la chimiothérapie.
Vous m'entendez?
Oui, on vous entend, hein, docteur.
Moi, vous êtes là, très bien.
On vous entend très bien. Allez-y, continuez, professeur.
Alors, donc, traitement néo-adjuvant. C'est comme si on vous demande de nettoyer une chambre ou un espace qui est très sale. Vous commencez d'abord par balayer, enlever les ordures, ensuite vous lavez et après vous venez vous rincer. Alors, donc la chimiothérapie permet de réduire, hein, néoadjuvant qu'on fait avant la chirurgie, permet de réduire le volume tumoral pour transformer une tumeur qui est initialement non résécable en une tumeur qui est résécable sur le plan carcinologique. Docteur Lantôme l'a dit, la résection, la chirurgie, c'est enlever la tumeur avec une marge de sécurité. Ça, c'est extrêmement important si on veut apporter ou on veut permettre la guérison de ces malades-là. D'accord. Donc, la chimiothérapie est vraiment d'accès limité. Mais nous la pratiquons en attendant que les oncologues médicaux viennent pour vraiment développer cette pratique.
Merci beaucoup, professeur Bangali Traoré. Nous lançons un appel par la même occasion aux autorités de nos différents pays africains afin qu'ils mettent en place un véritable programme national de prise en charge du cancer du sein dans nos différents pays. Parce que le problème est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une politique nationale, c'est vrai que la prise en charge va être difficile pour les professionnels et en même temps, compliqué même de former, parce que quand il n'y a pas une politique nationale, même pour former les professionnels, ça va être compliqué parce qu'ils préfèrent aller exercer ailleurs vu que l'infrastructure de base n'existe pas. Alors, allez-y, oui.
Maintenant que le programme existe, ça, ce sont des chantiers. Bon, je parle de tout ça, c'est pour dire que ce sont des chantiers qui vont figurer justement dans l'élaboration du prochain plan cancer. D'accord. Donc, il y a un plan cancer qui est très dynamique en France. Mm-hmm. Nous allons également, dans chaque pays, il y a normalement un plan cancer. Donc, nous allons nous atteler à cela pour mm-hmm. que tous ces aspects-là soient intégrés. Mais le nerf de la guerre, c'est la mobilisation des ressources financières. D'accord. Alors, le cancer, c'est le parent pauvre du ministère de la Santé. Bon, à travers justement ces plaidoiries, on va peut-être mobiliser davantage de ressources pour qu'on puisse s'orienter vers le futur.
Merci beaucoup, professeur Bangali. Nous arrivons à la fin de notre temps d'antenne pratiquement, mais je vais vous poser la question de savoir quels sont les effets secondaires qu'on puisse avoir en faisant l'un ou l'autre, la radiothérapie ou la chimiothérapie, quels sont les effets secondaires que nous avons? Docteur Lantôme.
Pour la radiothérapie, les effets secondaires, c'est essentiellement des brûlures plutôt légères. On appelle ça des radiodermites. En général, c'est un effet qui est très transitoire. Et la position de crème adaptée permet de, comme des gros coups de soleil, si vous voulez, permet de pallier un petit peu à ça. Puis après, la peau se régénère complètement et définitivement. Les machines ont fait beaucoup de progrès parce que, comme vous le savez, les seins, en arrière des seins, il y a les côtes et en arrière des côtes, il y a les poumons et le cœur. Voilà. Donc, il peut y avoir effectivement des séquelles pulmonaires, cardiaques, et donc le travail des radiothérapeutes, c'est de limiter au maximum la pénétration des rayons en profondeur pour éviter d'avoir justement des séquelles dans ces organes-là. Mmh. En ce qui concerne la chimiothérapie, les effets secondaires immédiats, là, c'est essentiellement la perte de cheveux, ce qui était c'est une image féminine, un symbole qui part en une à deux cures. Et donc il y a tout un accompagnement qui doit être fait. Il y a des perruques, il y a des foulards, il y a quand il fait très chaud, etc. Pour que la patiente accepte, voilà, et accepte aussi le regard de l'autre. Voilà. Donc c'est ça qui est compliqué. L'acceptation de ces effets secondaires, notamment en chimiothérapie, elle se fait beaucoup aussi par les soins oncologiques de support. D'accord. La nécessité vraiment d'avoir une aide psychologique, des aidants. D'avoir une infirmière un peu sensibilisée à cette cause pour rassurer, aider le patient, l'encourager et puis l'aider à gérer tous ces effets secondaires.
D'accord. Professeur Bangali, je voudrais même vous poser la même question, mais différemment. Je pense que là, le docteur Lantôme nous a donné les différents effets secondaires qu'on a en faisant et la radiothérapie et la chimiothérapie, mais c'est la partie accompagnement psychologique. À ce niveau, est-ce que aujourd'hui, quand vous administrez la chimiothérapie à vos patientes et qu'elles commencent à perdre les cheveux, y a-t-il des professionnels de la santé qui sont formés dans l'accompagnement de ces patientes?
Comme je vous ai dit, nous avons ces difficultés. En fait, le médecin, nous avons la chance d'être accompagnés par des infirmières qui nous aident énormément pour la prise en charge des malades. Mais vous savez, chez nous, quand vous avez un patient chez qui vous faites la prescription, tout ce qui lui arrive, c'est vous qui devez tout régler. Donc, le soutien psychologique, c'est nous. Nous n'avons pas d'assistants sociaux. Nous n'avons pas de psychologues qui accompagnent. Nos infirmières sont beaucoup plus orientées vers l'administration des soins. Donc, tous les problèmes, pratiquement, sont pris en charge par les médecins. Donc, nous faisons les psychologues, nous faisons les assistants sociaux, nous faisons les médecins. Et on se fait aider par les infirmières pour prendre en charge ces malades-là.
Alors, donc, professeur, est-ce que la famille est impliquée dans cette prise en charge?
Bien sûr que la famille est impliquée, elle est impliquée, largement impliquée dans la prise en charge de ces malades. Mais comme vous le savez, un malade surtout qui est si c'est des malades qui sont en soins palliatifs, la prise en charge implique trois malades pour un seul. Le malade, la famille et le personnel, l'équipe de soins. Voilà. Donc, la famille est effectivement impliquée. D'accord. La famille a une place très importante chez nous.
D'accord.
Extrêmement importante dans la prise en charge des malades.
D'accord. Merci beaucoup, professeur Bangali Traoré, docteur Stéphane Lantôme. Nous sommes à la fin de notre temps d'émission. Je voudrais juste me tourner vers vous, vous donner le micro, afin, si vous avez un appel ou un message à faire passer pour que nos auditeurs puissent être mieux sensibilisés ou que les autorités, je pense que là, sur ce plateau, professeur Bangali, il parle aux médecins, aux patients et en même temps aux autorités, à la différence que docteur Stéphane Lantôme parle plutôt aux patients. Alors, je vais plutôt me commencer par docteur Stéphane Lantôme. Quel message véhiculez-vous à nos auditeurs aujourd'hui?
Moi, je trouve qu'on peut agir sur l'aspect prévention. C'est un nouveau chantier. On commence à bien savoir traiter les choses. On commence à avoir une bonne appréhension de la pathologie et de la prise en charge. Mais l'aspect comment l'éviter, ça, c'est un vrai message pour l'avenir. Il faut déjà lutter contre le tabac, qui est responsable pour presque 2500 à 3000 cas de cancer du sein par an. Donc le tabac, l'alcool, l'alimentation, la mauvaise alimentation avec tous les perturbateurs endocriniens liés à l'alimentation qui stimulent possible. Donc c'est le troisième point. Et puis l'activité physique. On a vu pendant le Covid, ces prises de poids chez les enfants anormales. On voit que c'est la prise de poids est nuisible à la santé. Donc, on a quatre pistes, hein, le tabac, l'alcool, la nourriture et l'activité physique pour réduire le cancer du sein. C'est un vrai message d'espoir.
Un vrai message d'espoir. Merci beaucoup, docteur Stéphane Lantôme. Aujourd'hui, nous retenons, en plus du dépistage, qu'il faut faire la prévention en évitant le tabac, en évitant l'alcool, en faisant une activité de ce sport et avoir une bonne hygiène alimentaire. Nous allons donner la parole au professeur Bangali qui va faire, je pense, un appel à deux niveaux parce que je pense que vous en avez autant besoin que nous qui sommes aussi originaires de ces différents pays, que nos autorités puissent s'impliquer. Je vous laisse le micro afin que vous puissiez faire parler votre cœur, parce que comme vous le savez le faire, je sais que vous le faites tous les jours, faites du plaidoyer auprès des autorités et aussi auprès des familles.
Autrement dit, on pourrait dire la prévention 0530, zéro tabac, quelle que soit la forme de tabac, cinq portions de fruits et légumes à consommer régulièrement et 30 minutes d'activité physique régulière 5 jours de la semaine. Le dépistage, la détection précoce. Je vais plutôt demander à nos femmes de pratiquer l'autopalpation, l'auto-examen, d'être leur propre médecin, se palper les seins pour découvrir, rechercher des anomalies et savoir que toute anomalie au niveau du sein ne signifie pas cancer, mais de s'orienter vers la structure de santé la plus proche pour être orienté vers les services de prise en charge, de diagnostic et de prise en charge des cancers du sein. La découverte précoce permet non seulement de sauver des vies, mais aussi améliorer la qualité de prise en charge de ces malades. Je vais peut-être m'orienter en tant que coordinateur du programme national de lutte contre le cancer, de nous aider d'abord à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, et secondairement, le plan cancer qui va regrouper les aspects en matière de gouvernance, en matière de prévention, de dépistage, de prise en charge des patients. Donc, ce plan, donc, si une fois qu'il est élaboré, et nous aider également à la mobilisation des ressources et parler spécifiquement du cancer du sein, c'est mettre en place des unités de mammographie dans les hôpitaux publics du pays, former des radiologues, former et équiper des laboratoires d'anatomie pathologique pour assurer le diagnostic de qualité et également nous aider à créer également la formation. Je vais mettre en place très bientôt un diplôme de carcinologie chirurgicale en Guinée. Et donc, à partir de l'année académique 2022, 2023, 2022-2024, nous allons donc mettre en place ce diplôme qui va nous permettre de former et de produire des ressources humaines sur place, donc qui vont travailler. Il y aura moins de fuites de cerveau si les agents sont formés sur place.
D'accord.
Voilà, donc ce sont ces messages-là que j'ai à délivrer, tout en vous remerciant pour l'invitation et pour vraiment cette journée. Et je sais que vous avez une écoute très, très vaste et que nos messages vont tomber dans les bonnes oreilles. Et que la lutte contre le cancer du sein dans notre pays va connaître une ampleur plus grande. Merci.
Merci, merci beaucoup, professeur Bangali. Alors, nous, avec les associations qui sont mobilisées autour de cette politique de lutte et de sensibilisation contre le cancer du sein, il y a parmi nous des professionnels de santé. Déjà, personnellement, je prends l'engagement auprès de nos auditeurs, auprès de vous, de créer déjà, ce ne serait qu'un groupe WhatsApp où on va vous réunir, vous, les professeurs, les professionnels de la santé, surtout dans cette problématique du cancer du sein, afin qu'il y ait des échanges. Vu que déjà, vous, professeur Bengali, vous êtes en train de mettre en place le plan national de lutte contre le cancer, je pense que vous pouvez profiter de l'expérience de docteur Stéphane Lantome ou de nos... les membres de nos différentes associations qui sont à des niveaux de prise en charge gynécologique ou bien même au niveau des accouchements, l'accompagnement de ces professionnels de la santé qui accompagnent les femmes au quotidien pour sensibiliser nos sages-femmes dans nos différents pays. Alors, la personne à qui je parle, je sais qu'elle se reconnaît dans ce que je suis en train de dire. Elle sera la personne qui va administrer probablement ce groupe WhatsApp malgré son agenda qui est assez chargé. Mais Je ne peux que vous dire merci pour ce temps d'antenne. Merci pour ces informations qui sont essentielles et vraiment capitales que vous nous avez partagées, que ce soit le docteur Stéphane Lantom, que ce soit le professeur Bangali Traoré, qui nous a vraiment émerveillés, qui nous a ouvert les yeux sur ces prises de position et aussi cette clarté de transmission que le docteur Stéphane Lantom nous a donné comme un message, et surtout cet appel à toutes ces personnes, à tous nos auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, sortez, ne restez pas dans vos maisons, allez-y ouvrir les portes de ces centres de santé pour que le dépistage soit fait à temps. Une fois que le dépistage est fait à temps, on a 90% de chances de vivre avec. Et il faut savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Une femme sur 8 en France est exposée sur le cancer du sein. Aujourd'hui, c'est des statistiques qui sont là. Et il y a beaucoup de personnes qui meurent dans le silence dans nos différents pays d'origine, dont parlait professeur Bangali. Donc, s'il vous plaît, merci de partager au maximum cette émission. Et nous disons merci à nos partenaires que je vais afficher les logos qui sont là. Ce sont les personnes qui nous ont accompagnés dans ce programme, qui sont impliquées dans ce programme de ce mois, qui nous accompagnent durant tout ce mois-ci. Alors, reconnaissez-vous dans ce remerciement. Je ne vais pas me mettre à citer le nom de tout le monde pour ne pas oublier. J'ai préféré mettre l'affiche de ces différents partenaires qui sont là et que nous disons aussi merci, 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 et mais un grand merci à notre équipe, la team ILA, qui passe son temps, on ne dort pas, on se partage des messages pour pouvoir préparer les émissions, préparer les activités. Et toute la team ILA, partout où vous êtes, merci encore de plus pour votre implication. Et la team technique, sans eux, aujourd'hui, cette émission ne pouvait pas avoir lieu. Ils se reconnaissent dans ça. Je ne vais pas citer votre nom et prénom pour ne pas écorcer les noms, mais je vous dis merci encore de plus pour ce temps d'antenne que vous nous avez accordé. Merci à professeur Bangali Traoré. Merci à docteur Stéphane Lantom. À très bientôt. Je pense que, docteur, moi, je viendrai vous chercher à Valence. On va refaire le voyage vers l'Afrique. Je pense que la première visite qu'on va faire, ce sera la Guinée. Et le professeur Bangali va venir, sera heureux de nous recevoir. Et après, on va aller au Cameroun. Parce que dans l'équipe de Team ILA, il n'y a que des Camerounais, on dirait, qui sont dans cette team. Merci au Cameroun. Et à très vite dans une prochaine émission. Merci beaucoup pour ce temps d'antenne. Professeur Bangali, à très bientôt. Docteur Stéphane Lantom, à très vite.
À très vite.
Très vite.
Radio ILA, la radio panafricaine. Radio ILA, la radio panafricaine.